les intermèdes. Donc, Françoise Guyot est inspectrice du travail. On va nous parler donc de l'ANI et plus précisément du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. Donc, la première chose dont je voulais vous parler, si j'arrive à retrouver mes petits là, alors, hop, il est... Où est-ce que je vais retrouver le machin? Je ne sais rien. Oh là là, mais c'est monstrueux ce truc-là. Voilà, en introduction, pardon. Ah non, pas du tout, j'ai jamais fait ça, c'est une première. Je suis d'habitude du genre dinosaure, mais aujourd'hui, comme le changement,
c'est maintenant,
j'ai décidé de changer. Donc voilà, j'essaye de ne plus être un dinosaure, mais pterodactyle, voilà, par exemple. Donc, je voulais simplement, dans une première diapo, vous refaire un petit schéma rapide du monde du travail. 18 millions de salariés, 1 200 000 d'employeurs qui sont liés par un contrat de travail. Et dans ce contrat de travail, je voulais vous passer une petite vidéo, qui rappelle que... Oh là là, mais c'est l'enfer ce truc. Je ne vais jamais m'en sortir de ce truc. Dès qu'on touche, là, ça bouge, on ne sait pas pourquoi.
Ah,
on n'entend rien de là.
Caractérisant contrat de travail est un lien de support. La deuxième chose, c'est qu'il sera soumis à la confidentialité pour ce qui vient pour moi, sur les sujets que l'employeur décidera, le temps que l'employeur le décidera. Alors, dis-toi, quand même, il y a peut-être des choses qui caractérisent un volontaire et la mobilité externe volontaire. Alors, si vous n'êtes pas bien trempé, je vais vous dire d'abord une chose.
Voilà,
en
c'est là.
Du travail, il n'y a pas de volontaire.
Vous entendez?
Oui. Elle n'existe pas. Quand Sarkozy disait vous aurez la liberté de faire des heures supplémentaires, il mentait. Il aurait été recalé à l'époque de l'examen primaire en première année de fac en droit du travail, parce que ce qui caractérise un contrat de travail est un lien de subordination juridique permanent. Lien de subordination juridique permanent. Quand vous êtes dans l'entreprise, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas d'égalité, vous êtes subordonné. C'est l'employeur qui décide de la naissance du contrat, de la gestion du contrat et de la rupture du contrat. Et c'est quand on vous dit vous aurez la liberté de travailler le dimanche, ça n'existe pas. Vous travaillerez le dimanche selon le volontariat, ça n'existe pas. Vous êtes subordonné. Et c'est même pour ça qu'il y a une contrepartie qui s'appelle code du travail. C'est la contrepartie à la subordination. À tel point que Mme Parisot, l'année dernière, avait fait un colloque à Paris sur le thèse de la soumission du grenier consentie. L'idée était que si vous êtes soumis librement, vous n'avez pas besoin de contrepartie. Donc vous enlevez tout le code du travail. Voilà. Et vous savez, c'est pour ça qu'idéologiquement, souvent, ils vous disent vous êtes des connards.
Voilà, vous êtes des collaborateurs, mais en fait, vous n'êtes pas des collaborateurs, vous êtes des salariés, et puisque vous êtes des salariés, vous êtes conditionnés au bon vouloir. Si tu veux bien me remettre la diapo, si vous voulez. Non, celui-là n'est pas bon. On est conditionnés, voilà, dans un rapport de force pour faire valoir nos droits. C'est la première. Non, c'est la précédente. Merci. Ça va être très dur, hein. Je sens que la technique va un peu nous... Donc voilà, on est dans un rapport de force en fait pour obtenir nos droits et donc pour avoir des droits au titre de notre contrat de travail, on doit se battre comme en 36, comme en 45, comme en 68 et certainement pas être avec un violon et jouer du picot et etc. Ça, ça marche pas. Et une autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a eu en fait une inversion de la hiérarchie des normes. Peut-être que tu reviendras, Françoise. Mais en 2004, Fillon a dit qu'on pouvait déroger à la loi, si la loi le permettait, avec des accords de branche et des accords d'entreprise. Et dans la niche, on a un renforcement de cette destruction du principe de faveur. C'est-à-dire que si le contrat de travail est plus favorable et que vous refusez une disposition plus défavorable, on vous dira, ben, va-t'en. Et vous n'aurez rien à dire, si j'ai bien compris. Voilà, mais bon, ça, on y reviendra. Alors, deuxième diapositive. Ouais! Donc, ce projet de loi, il intervient dans la dynamique de la conférence sociale de juillet 2012. Deux objectifs, faire face au chômage, faire face à la précarité. Donc, gardez ces deux objectifs à l'esprit. À chaque fois qu'on présente une disposition du projet de loi, est-ce que ça permet de faire face au chômage? Est-ce que ça permet de faire face à la précarité? Je pense que c'est les deux arguments qu'il faut qu'on garde présents. Et donc, les deux moyens pour parvenir à la réalisation de ces deux objectifs, c'est sécuriser les salariés précaires et sécuriser les salariés licenciés économiques. Voilà. Donc, c'est juste pour bien qu'on garde ça à la tête. Et puis, une autre chose que je voulais vous dire, c'était qu'on était dans une procédure accélérée au niveau du projet de loi. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas une navette législative entre l'Assemblée et le Sénat comme d'habitude. Là, on a eu donc un vote de l'Assemblée nationale le 9 avril, le Sénat le 20 avril, la commission paritaire hier, hein, le 23 avril, et le 14 mai, le texte qu'a élaboré la commission paritaire va être présenté à la discussion à l'Assemblée nationale. Et ce sera la toute fin pour ce projet. C'est-à-dire que, comme il a été écrit, il sera voté. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se résigner, évidemment. Donc, rapidement, le contenu. Donc, tout le monde nous le présente comme un accord gagnant-gagnant. Il a été signé par trois organisations syndicales qui représentent 38,7% des voix. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que le gouvernement s'empresse de le faire voter, de faire voter la loi si rapidement, puisque au 1er juillet, les organisations syndicales seront carrément minoritaires, encore plus qu'avant, si j'ai bien compris aussi. Mais bon, ça c'est sous contrôle de Françoise. Et une nouvelle petite vidéo pour. Je vous ai quand même. Pour parler de trois points, donc d'une part la taxation des CDD, la durée minimale du temps partiel et la facilitation du recours au licenciement collectif. Voilà, c'est juste pour vous. Alors c'est l'autre, c'est pas. C'est celle-là, la logique. Ouais, la logique.
Julie est plutôt une fille de bonne composition, souriante, ouverte au dialogue et tolérante. Il y a des situations qui ont, disons, la capacité de lui faire perdre son flegme et qui lui donnent envie de se battre. C'est le cas de l'accord dit compétitivité des entreprises et sécurisation de l'emploi, un accord conclu mi-janvier entre le patronat et trois syndicats et qui doit bientôt faire l'objet d'une loi. Avancée majeure, on racontait les signataires, accord gagnant-gagnant, on relit certains médias crédules. Le résultat est au contraire très déséquilibré en défaveur des salariés. En clair, mesure phare, les patrons ont obtenu qu'en cas de grave difficulté, les salaires et le temps de travail puissent baisser pendant 2 ans. La mesure, nous dit-on, doit permettre de sauver l'emploi, d'autant que le carnet de commandes repart. En réalité, ce qu'on nous présente comme une avancée est une recette vieille de 30 ans. Au prétexte de lutter contre le chômage, on a détricoté les garanties collectives, comme l'augmentation des salaires en fonction des prix, ou l'autorisation administrative de licencier par exemple. La philosophie derrière tout cela est simple. Pour que les entreprises soient compétitives, il faudrait que les salariés coûtent moins cher et qu'ils soient plus flexibles. Mais sauf que depuis 30 ans, ça ne marche pas. Le chômage ne recule pas et l'insécurité au travail augmente. Sortir de la crise, ce n'est pas la faire payer aux salariés. D'abord, ce n'est pas parce que les employeurs pourront licencier plus facilement qu'ils embaucheront. Ensuite, pour créer de l'emploi, il faut de l'activité économique, donc des investissements, de la consommation, des emplois stables et des salaires en hausse. Mais revenons à quelques détails de cet accord qui montrent qu'au final, les salariés sont largement perdants. À la machine à café l'autre jour, Jean insistait sur ce qu'il avait entendu à la radio. L'accord prévoit que les CDD vont coûter plus cher. Moins de contrats courts et incertains, voilà plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai, expliqua Julie, les cotisations sur les CDD de moins d'un mois vont coûter plus cher au patron. Mais dans leur jeu, de nombreux contrats précaires échappent totalement au surcoût. Par exemple, les CDD de remplacement, les CDD saisonniers et surtout l'intérim. Au final, il faut calculer que trois quarts des contrats précaires échapperont à la moindre hausse de cotisation. Le lendemain, c'est Leïla qui trouvait que, tout de même, cet accord compétitivité-emploi devrait limiter le temps partiel non choisi. Sa cousine caissière, par exemple, est employée 20 heures par semaine. Alors, des heures en plus, ça serait bon à prendre, non? François et Julie lui expliquèrent la réalité. L'accord prévoit certes qu'aucun contrat ne pourra dorénavant faire moins de 24 heures par semaine, mais il ne changera rien au contrat existant. Exit les heures en plus si l'employeur n'accepte pas. Pour les nouveaux embauchés, une demande écrite et motivée du salarié suffira à l'employeur pour proposer un temps partiel de moins de 24 heures. Quand on a besoin à tout prix d'un emploi, la demande motivée et signée en question risque fort d'être dictée par
subordination.
Mais là encore, les apparences avancées sont battues en brèche dans les petites lignes de l'accord. Sur le chemin du retour, Julie discuta avec Luc, délégué syndical comme elle. Dans son entreprise, face à la baisse des commandes, 10 licenciements ont été décidés. Si l'accord passe, la direction pourra choisir qui doit partir sur le nouveau critère plutôt flou de compétence. Jusqu'à maintenant, des critères objectifs existaient pour protéger par exemple ceux qui ont la charge d'une famille ou les plus anciens, qui sont d'ailleurs aussi compétents que les autres. Si l'accord passe, les salariés se trouveront soumis à une cruelle et arbitraire loterie.
Et voilà. Voilà, c'était juste pour nous mettre en bouche, ça, par rapport à notre sujet. Et je vais passer la parole à Françoise. Si vous avez des questions après, à la fin de l'intervention de Françoise, on pourra revenir là-dessus. Et non, c'est sympa, tu veux pouvoir retrouver.
Donc, Nathalie vous a expliqué, vous en étiez du projet de loi, à savoir qu'il y a une commission mixte, paritaire, Assemblée nationale, Sénat, qui s'est, en tout cas, je ne sais pas si elle s'est réunie hier, mais en tout cas, elle a abouti à un accord hier, et donc le texte a été déposé, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale et à la présidence du Sénat, et donc c'est ce texte-là qui sera de fait adopté suite à cet accord entre les deux les représentants des deux chambres. Donc, moi, je vais surtout aborder la question des licenciements économiques, mais c'est vrai que ce projet de loi touche à plein d'aspects du Code du travail, hein, et non pas seulement aux licenciements économiques. Alors, pourquoi j'ai tendance un petit peu à insister là-dessus ? Parce qu'il est dit relatif à la sécurisation de l'emploi. En fait, le terme est totalement inapproprié, parce qu'on verra qu'il ne sécurise pas grand-chose en matière d'emploi, au contraire. Par contre, il aurait dû s'appeler relative à la sécurisation juridique pour les employeurs d'un certain nombre de procédures en matière de licenciement économique. Et ça répond à une vieille revendication patronale qui dit, en gros, toutes nos procédures sont soumises au contrôle du juge qui ne connaît rien à la réalité de l'entreprise, à la vie d'entreprise, à ses contraintes, etc. etc. Et donc, tout est fait au travers de ce projet de loi pour essayer d'échapper au contrôle du juge judiciaire sur les licenciements économiques, au nom d'une sécurisation pour les employeurs de ces procédures. Donc, une sécurisation, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'un salarié ou qu'un syndicat ne puisse pas contester ultérieurement une procédure de licenciement économique et voit l'employeur condamné à des dommages et intérêts importants, hein, pour non-respect de la procédure, pour plan de sauvegarde de l'emploi ou dit plan social d'un point de vue moins juridique, donc qui aurait été considéré comme étant nul par le juge. Donc l'objectif du patronat, c'est de ne pas se retrouver avec des litiges après avoir procédé à des licenciements qui lui reviennent très chers. Et c'est vrai qu'au travers de la presse, on a souvent vu des cas où les salariés attaquent leur licenciement devant les prud'hommes, ont gain de cause 3-4 ans après et se retrouvent avec des dommages et intérêts importants. Ils ne retrouvent pas leur emploi, hein, mais ils se retrouvent avec des dommages et intérêts que l'employeur doit payer. Alors, du coup, comment c'est prévu ? D'une part, la première chose, il faut savoir que, quand même, les salariés, majoritairement, à une petite majorité, mais de l'ordre de 51%, travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Pour eux, rien ne change. Il n'y avait quasiment aucune sécurité de leur point de vue par rapport à l'emploi. Et là, le projet de loi ne comporte aucune garantie supplémentaire pour eux. C'est-à-dire qu'un employeur d'une entreprise de moins de 50 salariés peut très facilement procéder à des licenciements économiques. Et le texte ne prévoit rien en la matière en termes de garantie supplémentaire pour les salariés. Donc pour les 51% de salariés qui travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés, malheureusement pour eux, rien ne change, ni dans un sens négatif, ni dans un sens positif, mais c'était déjà très négatif pour eux, donc ça reste négatif. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, et qui procèdent à des licenciements économiques de plus de 10 salariés, là, les choses changent au travers de ce projet de loi. C'est-à-dire que maintenant, l'employeur aura deux choix. Soit il signe un accord avec des organisations syndicales qui représentent plus de la moitié des voix lors des élections professionnelles, lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise, c'est-à-dire comité d'entreprise ou délégation unique du personnel. Et dans ce cas-là, l'employeur déposera auprès de l'administration, c'est-à-dire pas auprès de l'inspection du travail, mais auprès de l'administration du travail dont nous dépendons. D'accord ? Donc déposera cet accord. Et l'administration aura 15 jours pour le valider. Le projet de loi initial prévoyait 8 jours après débat et au travers de ce qui a été mis en place par la commission mixte paritaire. Maintenant, c'est 15 jours pour l'administration pour valider l'accord.
Donc, il y a une faute là-dessus, j'ai mis 21 jours.
Alors non, parce que c'est le document unilatéral. L'accord collectif majoritaire, le premier petit point, c'est il doit être validé par l'administration du travail au bout d'un délai de 15 jours. Là, l'administration aura 15 jours pour le valider. Si l'autre possibilité pour l'employeur, c'est de ne pas signer un accord avec les organisations syndicales et de le déterminer de façon unilatérale après consultation du comité d'entreprise, etc. Mais c'est lui qui décide au final. Hein. Le comité d'entreprise, il émet un avis, il n'a aucun droit de veto. Donc si l'employeur décide de ne pas suivre l'avis du comité d'entreprise, ben, ça sera ce document unilatéral qu'il devra également déposer auprès de la même administration, qui là aura 21 jours pour homologuer le document unilatéral. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est prévu par le texte, c'est si l'administration ne prend aucune décision, soit de validation de l'accord, soit d'homologation du document unilatéral, eh bien ça veut dire que l'accord est validé ou que le document unilatéral est validé. D'accord ? Si l'administration, au bout des 15 jours ou des 21 jours, ne répond rien, eh bien, l'accord est validé ou le document unilatéral est validé. Donc, les licenciements économiques avec les mesures d'accompagnement sont validés.
Évidemment, vous avez suffisamment de personnes pour regarder tous ces
valeurs. Voilà. Alors, l'exemple que je donne, parce que la réalité concrète est celle-là. Moi, je travaille sur Paris. À l'heure actuelle, déjà, nous regardons quand même les plans de sauvegarde de l'emploi ou les plans sociaux sans validation ni homologation, mais on fait des observations, etc. Donc il y a un service qui s'occupe de ça, puisque tous les plans de sauvegarde de l'emploi ou les plans sociaux doivent être déposés auprès de nos services. À l'heure actuelle, il y a quatre collègues, sur tout Paris, qui s'occupent de ça. Et bien évidemment, dans le délai de 15 jours ou de 21 jours, jamais ces quatre collègues vont la chef de service qui veut partir, vont une collègue qui a une mutation, donc je pense qu'ils sont plus de deux maintenant pour de vrai, ne pourront examiner sérieusement ni les accords, ni les documents unilatéraux établis par l'employeur, et donc, de fait, ne feront pas de décision avant la fin du délai de 15 jours ou de 21 jours, et dans ce cas-là, eh bien, l'accord sera validé et le document unilatéral établi par l'employeur sera homologué. Donc c'est ça la dualité des choses. Le MEDEF, quand il a réclamé cette procédure et qu'il l'a obtenue par accord puis par la loi, avait un exemple antérieur. C'était la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle, qui est maintenant dans le Code du travail, qui donc se fait par accord entre l'employeur et le salarié, dans le cas d'un lien de subordination juridique, hein, c'est toujours accord, mais un accord quand même entre deux parties particulièrement inégales. Donc, cet accord, les partenaires sociaux, et ça a été repris dans la loi, avaient prévu une homologation par l'administration du travail de la rupture conventionnelle. Ce qui fait que les employeurs, ou les salariés, mais c'est plutôt les employeurs, envoient les formulaires de rupture conventionnelle et l'administration a 15 jours pour les homologuer. Résultat des courses, d'abord, il y a à peu près 3% sur Paris des ruptures conventionnelles qui sont refusées, d'accord, 3%. Et les autres, il n'y a aucune décision de prise parce que les collègues, dans le délai de 15 jours, ils n'ont aucune possibilité de regarder réellement la conformité, la légalité des ruptures conventionnelles. Donc, ils ne prennent pas de décision. Et puis, la rupture conventionnelle est homologuée. Donc ça, le patronat, il a vu cet exemple. Il s'est dit, génial. De toute façon, l'administration du travail n'aura jamais aucun moyen d'exercer ce contrôle. Donc, on demande ce contrôle. Plutôt que d'avoir le contrôle du juge, on demande le contrôle de l'administration du travail qui n'a aucun moyen pour le réaliser. Et on a d'autant moins de moyens qu'avec la RGPP et puis maintenant la modernisation de l'action publique, parce que ça change de terme en fonction du gouvernement, au niveau de notre ministère, par exemple, cette année, c'est 150 postes en moins, et puis ça va continuer. Donc on ne va pas recruter des gens pour faire ça. On aura des postes en moins, mais on aura à faire ça en plus. Voilà. Donc, la dure réalité est celle-là. Alors ça, c'est pour les licenciements économiques. Ensuite, s'il y a décision, qu'elle soit explicite, c'est-à-dire il y a un papier avec une décision, etc., ou qu'elle soit implicite, c'est-à-dire il n'y a pas de réponse, donc c'est validé et homologué, l'employeur ou les organisations syndicales ou les salariés peuvent attaquer cette décision d'homologation, quand même, ou de validation, dans un délai de 2 mois, mais devant le juge administratif, plus devant le juge civil, hein, devant le juge administratif. Et l'expérience qu'on a, parce que jusqu'en 86, il y avait une autorisation administrative de licenciement pour tous les licenciements économiques, qui a été supprimée en 86. Et à l'époque, le juge administratif était très peu regardant sur ce que faisait l'administration et couvrait très souvent quand même ce que faisait l'administration, et y compris disait à l'administration, la jurisprudence du Conseil d'État était de dire ne regardez pas trop tel point ou tel point. Donc on avait un contrôle vraiment à minima des licenciements économiques, et donc la crainte, c'est que la jurisprudence administrative soit très restrictive sur les points de contrôle que pourra avoir l'autorité administrative, et que donc le risque, c'est que les syndicats ou les salariés n'obtiennent pas gain de cause devant le juge administratif, alors que potentiellement ils ne pouvaient plus obtenir gain de cause devant le juge civil. Donc voilà la grande modification sur les licenciements économiques. Les autres points de modification importante, c'est les accords de maintien dans l'emploi. Donc c'est quand l'entreprise est confrontée à des difficultés conjoncturelles, par voie d'accord signé toujours avec des organisations syndicales qui représentent 50% des voix recueillies lors des précédentes élections professionnelles, il est possible pour une durée de 2 ans que l'employeur s'engage à ne pas supprimer d'emploi. Alors, pas, l'accord n'est pas forcément conclu au niveau de la totalité de l'entreprise. Hein. Il peut être conclu au niveau d'un établissement, d'un service. Bon, ce n'est pas forcément la totalité de l'entreprise qui est concernée par l'accord. Donc, l'engagement ne vaut que pour le périmètre pour lequel il a été conclu. Hein. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'une entreprise est totalement interdite de procéder à des licenciements économiques. Mais elle peut, au travers d'un accord, dire à tel endroit, je ne procéderai pas à des licenciements économiques, à des suppressions de postes, en contrepartie, donc, de modifications quant à la durée du travail, quant à la durée du travail, pas simplement l'aménagement, hein, la durée du travail, donc ça veut dire une possibilité d'augmentation de la durée du travail, non vraiment limitée, hein, dans le projet de loi, il n'y a pas de limite, on ne dit pas jusqu'à 40 heures, 41 heures, 42 heures, donc là-dessus, on verra bien comment ça se passe derrière, mais en tout cas, c'est non limité, mais aussi par des baisses de salaire. Alors, les baisses de salaire, elles, sont limitées, c'est-à-dire que les salariés qui touchent le SMIC plus 20% ne peuvent pas se voir appliquer une baisse de salaire, et les salariés qui gagnent plus que le SMIC plus 20% peuvent se voir appliquer une baisse de salaire jusqu'à hauteur du SMIC plus 20%. Voilà. Bon, donc, c'est quand même assez bas, hein, le SMIC plus 20%, c'est quand même pas énorme. Bon, voilà. Donc, ça, c'est ce qui est prévu donc, dans cette loi. Ça va ? Donc, cet accord doit être conclu pour une durée de 2 ans maximale. Donc, l'engagement de l'employeur n'est que sur une durée de 2 ans. Et pareil, les contreparties, normalement, ont une durée limitée dans le temps. Mais à la limite, rien n'empêche l'employeur, au bout de ces 2 ans, de reconclure un nouvel accord de 2 ans. Hein. Il n'y a pas une durée, un nombre d'accords limité. D'accord ? Donc, il est possible, au bout de 2 ans, de conclure un nouvel accord pour une nouvelle durée de 2 ans. Donc, les salariés qui se voient quand même appliquer une baisse de salaire ou une augmentation de la durée du travail, ils ont un contrat de travail qui, en général, prévoit une durée du travail et un salaire. C'est de clauses minimales qu'on trouve dans un contrat de travail. Donc, ça veut dire que l'accord permet de modifier ce contrat de travail. D'accord ? Alors, il est prévu, donc l'employeur quand même ne peut pas modifier le contrat de travail sans l'accord du salarié. Donc, ce qui est prévu, c'est qu'il doit proposer la modification du contrat de travail, soit en termes de salaire, soit en termes de durée du travail, soit sur les 2 points d'ailleurs, parce que rien n'interdit de jouer sur l'augmentation de la durée du travail et la baisse de salaire dans le projet de loi. Et le salarié qui refuse est licencié pour motif économique. D'accord ? Il est licencié pour motif économique individuel, quel que soit le nombre de salariés qui refusent. C'est-à-dire que si plus de 10 salariés refusent la modification de leur contrat de travail, normalement, on retombe dans la procédure que je vous ai indiquée auparavant. Mais là, non. Il peut y avoir 100 salariés qui refusent, ce sont des licenciements économiques individuels. Et là, donc, pas d'obligation de plan de sauvegarde de l'emploi, de plan social, on revient au licenciement économique individuel dans les petites boîtes, il n'y a rien qui se fait, quoi. Il n'y a même pas d'obligation de consultation du comité d'entreprise, parce que ce sont des licenciements économiques individuels. Donc, voilà ce qui est prévu sur ce point-là. Troisième point, j'espère que je ne suis pas trop longue. Troisième point, c'est les accords dits de mobilité géographique. Alors, là, ce sont des accords qui peuvent être conclus au niveau d'une entreprise, toujours avec les organisations syndicales. Les accords de mobilité, il n'est pas vraiment dit que c'est lié à des difficultés conjoncturelles. Hein. Donc, dans n'importe quelle entreprise, qu'elle aille bien ou mal. D'accord ? Donc.
Mais pour éviter qu'il y ait trop de précarité, hein, toujours.
Oui, toujours. Donc là, il n'y a aucune condition hein, du fait qu'il y ait des difficultés conjoncturelles ou quoi que ce soit. Donc les accords de mobilité, c'est signé entre un employeur et des organisations syndicales. Là, il n'y a pas d'obligation que les organisations syndicales représentent 50% des voix lors des dernières élections professionnelles, mais simplement 30% des voix, ce qui est le droit commun. Donc, c'est 30% des voix, donc ce sont des accords minoritaires. Bon, sous réserve qu'il n'y ait pas un droit d'opposition, hein, quand même, par des organisations syndicales qui rassemblaient, ça peut être une ou plusieurs organisations syndicales, qui fassent jouer un droit d'opposition, et ces organisations syndicales additionnées doivent faire plus de 50% des voix pour faire jouer leur droit d'opposition. D'accord ? Parce que là, c'est pareil, c'est le droit commun qui s'applique. Donc, ces accords de mobilité permettent d'imposer à un salarié une mobilité géographique. Donc, l'accord doit fixer quand même le cadre de la mobilité géographique, donc il doit dire si c'est 50 km, 100 km, 120 km. Le texte de loi ne fixe rien comme limite. Hein. Donc c'est l'accord qui fixe la limite de la mobilité géographique imposée aux salariés. Et puis il doit prévoir des mesures pour concilier vie professionnelle, vie familiale, enfin pour tout le baratin. Les mesures d'accompagnement en termes de... Bon, enfin bref. Donc passons, tout ça c'est du baratin. Mais pareil, souvent, ça représente une modification du contrat de travail pour les salariés quant à leur lieu de travail, là par contre. Et le salarié qui serait amené à refuser cette mobilité géographique serait licencié pour motif économique et ça serait toujours un licenciement individuel, quel que soit le nombre de salariés qui refuseraient cette mobilité géographique. Alors par exemple, à Renault, il y a cet accord qui a été signé, alors avant la loi, hein, par ailleurs, donc avant la loi, mais qui fait, je crois, il a établi deux régions, je crois, une nord-sud ou une est-ouest, je ne me rappelle plus, ou grand-ouest, et donc les salariés sont amenés, dans le cadre du grand-ouest, ça va, si j'ai bien compris, de Lille jusqu'à Rochefort, hein, c'est ça, en passant par la région parisienne, enfin bon, vous voyez. Donc c'est vraiment du Grand Ouest. Et les salariés, en application de cet accord, on leur dit, ben voilà, il faut aller travailler à Renault-Cléon, parce que là on a plus de travail, on a plus de travail, et à tel endroit, par exemple à Lille ou je ne sais pas trop où, ben, il n'y a plus de travail, donc il faut que vous partiez là-bas. Et donc c'est ça qui risque de se passer dans les entreprises. Renault, on ne peut pas dire qu'ils sont en mauvaise situation financière, ils ont des problèmes, ça c'est sûr. Mais le groupe Renault en lui-même n'est pas en difficulté financière. Néanmoins, pour mieux gérer leur capacité de production, etc., etc., ils peuvent désormais, sur la base de cet accord, balader les salariés sur ce Grand Ouest qui, je vous dis, va de Lille à Rochefort, désormais. Donc ça, maintenant, ça sera sécurisé juridiquement, par le biais de cette loi. Parce que pour l'instant, les salariés de Renault qui refusent la modification de leur contrat de travail, certes, ils y vont être licenciés pour motif économique, mais s'ils sont plus de 10, il y aura des mesures d'accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi, etc. Après la loi, ben, ça sera des licenciements économiques individuels. Donc voilà les points principaux quand même de sécurisation de l'emploi. Donc vous voyez tout de suite la sécurisation de l'emploi pour les salariés qui n'ont plus aucune garantie en termes sur leur contrat de travail, hein, en termes de modification de leur contrat de travail, qui ont de moindres garanties pour les licenciements économiques de plus de 10 salariés dans les entreprises de plus de 50 salariés. À peu près la même chose, c'est-à-dire pas plus de garanties dans les entreprises de moins de 50 salariés. Alors peut-être pour terminer sur ces points-là, les aspects temps partiel qui ont été abordés là dans le petit diaporama, donc c'est tout à fait juste ce qui a été dit dans le diaporama, mais en plus il y a un truc qui est quand même incroyable qui est prévu dans ce machin, c'est que la jurisprudence disait jusqu'à maintenant, parce que voilà, les contrats de travail à temps partiel, on prévoit une durée du travail dedans. D'accord ? 10 heures, 12 heures, enfin peu importe. Hein. Et puis, on peut prévoir des heures complémentaires au-delà, dont le paiement est normalement majoré. Donc ça revient un peu plus cher à l'employeur quand il fait faire des heures complémentaires au-delà de la durée prévue au contrat. Il y a des patrons malins, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Au lieu de dire, vous faites des heures complémentaires majorées, donc plus chères, ben, je vais vous faire un avenant à votre contrat. Donc, je vais vous passer, par exemple, vous étiez à 10 heures, je vais vous passer, je vais vous faire signer un avenant à votre contrat qui vous passe à 12 heures. Là, ce n'est plus des heures complémentaires, c'est un nouveau contrat de travail, qui a 12 heures. Donc, les 2 heures, elles ne sont pas majorées. Et puis, 3 mois après, on les fait revenir à 10 heures. Et puis, 3 mois après, on les fait passer à 14 heures, et puis les 4 heures, elles ne sont pas majorées. Bref, donc ils avaient trouvé ça malin. La Cour de cassation, le juge a dit non, ça c'est totalement illégal. Totalement illégal. C'est contraire au texte, etc. Ben, le projet de loi, il légalise ça. C'est-à-dire, il dit, on pourra proposer aux salariés à temps partiel au maximum 8 avenants sur l'année au contrat de travail. 8 avenants sur l'année, ça va couvrir l'année. D'accord ? Et donc, des avenants qui permettront de ne pas payer les heures supplémentaires de façon majorée. Donc, ce qui a été déclaré illégal par le juge, eh ben, il est introduit et légalisé dans ce texte. Tout ça au nom de la lutte contre la précarité, je ne vous raconte pas. Donc, toutes les exceptions, parce que la seule chose qui est intéressante, c'est les 24 heures, la durée minimale de 24 heures dans les contrats de travail à temps partiel, mais le diaporama expliquait parfaitement bien toutes les possibilités de déroger, et même par accord de branche, il est possible de dire non, la durée minimale sera inférieure à 24 heures. Donc même un accord de branche peut prévoir une durée minimale inférieure. Et puis, dernier point qui énervait beaucoup aussi les employeurs, donc, qui les énerve tout le temps, c'est le problème des salariés qui portent plainte contre leur employeur devant les prud'hommes sur les salaires qui n'ont pas été respectés, sur ceci, la prime d'ancienneté qui n'a pas été respectée, sur machin, etc. etc. Et le délai de prescription est de 5 ans. Donc on peut obtenir un rappel de salaire sur 5 ans. Là, ça va passer à 3 ans. C'est dommage, ça fera 2 ans de moins de rappel de salaire pour le salarié. Donc ça, c'est tout bénef aussi pour les employeurs. Donc, c'est des petits points comme ça, qu'on a complètement annexes et inintéressants, mais qui ont des incidences énormes pour la totalité des salariés. Voilà, et puis après on verra au travers des questions s'il y a des points. Ouais.
Donc, on boucle. Donc voilà. Juste aussi donc pour compléter ce que disait Françoise. Une petite diapo sur les contrats à durée indéterminée intermittents. Donc c'est la nouvelle, ça vient de sortir. Et donc ce sera des contrats de travail à durée indéterminée, mais où vous alternerez des périodes travaillées non travaillées sur l'année, bien sûr, avec des périodes non travaillées qui n'ouvrent pas toujours droit à l'assurance chômage, alors qu'on paye l'assurance chômage. Et je rappelle que quand on est au chômage, on a payé une assurance et que donc c'est un peu normal qu'on perçoive une indemnité. C'est comme quand vous payez votre prime pour le dégât des eaux. Et quand vous avez un dégât des eaux, et ben vous êtes indemnisé. C'est normal, vous avez payé une assurance pour ça. Donc là, voilà. Donc pour l'instant, c'est en test. Mais visiblement, ça va aussi ouvrir les clapets, puisque quand on regarde les secteurs, en fait, on s'aperçoit que l'industrie du chocolat, bah, ce sera tout ce qui est industriel et agroalimentaire. La formation, c'est tout ce qui est service. Les articles de sport, c'est tout ce qui est loisirs. Et on couvre à peu près tout le champ du travail en France, quoi. Donc, une fois que que l'expérimentation aura donné un résultat, on l'appliquera partout. Et donc, on sera des CDII. Donc voilà, qu'on a parlé. Donc bon, voilà. Autre chose, peut-être on va prendre quelques questions. Oui, si c'était sur les IRP. Dans la loi aussi, on a donc des dispositions sur les institutions représentatives du personnel. Et moi, je me posais la question, quel rapport avec le chômage et avec la lutte contre la précarité, alors qu'on modifie en fait le pouvoir des IRP, on fragilise les CHSCT, on diminue l'information qui sera donnée aux institutions représentatives du personnel. Donc voilà, quel rapport avec le chômage? Est-ce qu'on est vraiment de bonne foi quand on propose cette loi devant les parlementaires. Bon, voilà, c'était juste. J'ai très mauvais esprit. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir, poser des questions. Il y a Bruno, il y a Mustapha.
Ouais, moi, j'ai une question parce que on n'en a pas parlé, mais j'ai entendu qu'il y avait l'exonération des cotisations patronales sur certains, pas tous, mais sur certains CDI, qui correspondaient pratiquement à la période d'essai, suivant les CDI, etc. Et du coup, je voulais savoir si tu avais plus de précisions sur ça, si ça avait été gardé dans le projet de loi ou pas. Et du coup, parce que c'est quand même assez dangereux dans le sens où, par exemple, lorsqu'il y a une grève, un employeur n'a pas le droit de faire appel à des CDI ou d'intérim, etc., peut à des CDD, mais peut faire appel à des CDI, peut embaucher peut-être des CDI, mais du coup, là, il pourrait embaucher un CDI, le garder pour une période d'essai, sans payer une cotisation patronale, et au bout du compte, le virer quand il en aura envie pendant la période d'essai, ce qui, par exemple, pour le cas d'une grève, casserait un petit peu la grève. Du coup, je ne sais pas si tu as des infos sur ça.
En fait, ce que j'ai vu là-dessus, c'était par rapport au CDD court, en effet, où on a compensé en partie l'interdiction, enfin le supplément, la surtaxation des CDD en autorisant des embauches de CDI pour des jeunes de moins de 26 ans. Et donc, en effet. Ouais, c'est pour les jeunes de moins de 26 ans. Et si, le fait de les garder juste sur la période d'essai, ils ne seront pas soumis, en effet, au CDD. Donc, le deal, alors je me gourre peut-être, mais le deal, c'est que le coût pour le patronat de la surtaxation des CDD est de l'ordre de 110 millions d'euros. Et cette exonération de cotisation pour des CDI, pour des jeunes de moins de 26 ans, leur rapporterait une réduction de cotisation de 155 millions d'euros. Donc il y aurait un différentiel favorable au patronat de 45 millions d'euros. Donc ce qui était dit, c'était qu'en fait, plutôt que de se casser la tête à embaucher des jeunes de moins de 26 ans sur des CDD où ils vont avoir des cotisations, ils vont en effet embauchés en CDI et à la fin de la période d'essai, ils mettront dehors ces jeunes qu'ils auront fait travailler sans être surtaxés. Enfin, il y a tellement d'autres manières de contourner la surcotisation et elle est très faible la surcotisation. Hein. C'est entre 0,5 points et 3 points en fonction des contrats et de la durée. Donc, c'est assez ridicule. Hein. Je crois, si ma mémoire est bonne, ça concerne 0,03% de la masse salariale du secteur privé. Donc, autant dire que c'est pas ça qui sécurise. Mustapha ?
Non, mais il me semble que j'ai rien vu sur le sujet. Il me semble que, par contre, sur la taxation des CDD, en sont exonérés les employeurs qui emploient des jeunes de moins de 26 ans en CDD. Il me semble que c'est ça. Ils sont exonérés dans les cas qu'on a vus. Et pour les jeunes de moins de 26 ans, employés en CDD. Parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, ils réintroduisent un truc spécifique par rapport aux jeunes qui est assez dégueulasse, quoi. Parce qu'on a l'impression que du coup, les jeunes, ils sont obligés de passer par les CDD pour maintenant, hein, sans intérim et sans CDD, ils n'arrivent pas à obtenir un emploi, ni un CDI à terme. Et du coup, ben, on dit au patron, ben, c'est normal. L'emploi des jeunes, ça passe par le CDD et donc on va pas le surtaxer. J'ai pu voir ça, moi, dans le truc de l'adopter.
Mais sur l'exonération des CDI.
Les exonérations de CDI, elles existent, hein, mais alors là, quel que soit l'âge, hein, les exonérations, les abattements de cotisations sociales, et elles existent, alors bon, il y a 10 000 sortes hein, d'exonérations d'abattements, et notamment sur les bas salaires. Je ne sais plus à quel hauteur, enfin, ça doit être à 120% du SMIC ou un truc comme ça. Quoi. D'accord ? Elles existent hein, déjà. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une trappe à bas salaire, parce que quel est l'intérêt de l'employeur de payer au-delà de 120% du SMIC alors qu'il paye là les cotisations sociales à 100%, plein pont, alors qu'en dessous, il est largement exonéré ou soumis à des abattements. Les cotisations sociales sont soumises à des abattements vachement intéressants. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on nous parle du phénomène de trappe à bas salaire, ce système d'exonération de cotisations sociales. Mais j'ai pas entendu. Et en général, c'est pas tellement là-dedans les histoires de cotisations sociales, c'est pas dans ces textes-là, c'est dans les lois de finances de sécurité sociale. Donc, peut-être que ça va venir hein, l'année prochaine, dans la prochaine loi de finances de sécurité sociale.
Que devient les France Inter dans cette histoire-là? Ça sonne de l'arrêt de retraite.
Ben, le problème des 35 heures, c'est que légalement, le texte il reste toujours à 35 heures. Enfin, dans le Code du travail, il y a toujours la durée légale du travail, il est de 35 heures. Mais les accords de maintien de l'emploi, là, où on peut toucher au salaire et à la durée, et à la durée du travail. Donc ça veut dire qu'on peut augmenter la durée du travail. Normalement, le Code du travail prévoit au-delà de 35 heures que ça soit payé en heures supplémentaires. D'accord ? Bon, mais si il y a paiement des heures supplémentaires, mais en même temps baisse de salaire, parce que l'accord prévoit une baisse de salaire qui est limitée à un plancher qui est à 120% du SMIC. C'est-à-dire le SMIC plus 20%. Ben, de fait, ça reviendra à une augmentation de la durée du travail. Sans ni augmentation de salaire, voire stagnation du salaire, soit baisse du salaire, avec une augmentation de la durée du travail. Donc, de fait, ça permet une remise en cause des 35 heures. Et puis après, il y a les salariés qui font déjà plus d'heures de travail hein, sur la semaine, donc ont des jours de RTT. D'accord ? On peut très bien prévoir des suppressions de jours de RTT aussi, parce que c'est aussi par ce biais-là qu'on peut augmenter la durée du travail sur l'année. Donc, par exemple, l'accord de Renault, il prévoit non seulement la mobilité géographique, mais la suppression d'un certain temps, notamment pour le travail en équipe. Ils avaient négocié une durée du travail à 32 heures hein, chez Renault pour ceux qui travaillent en 3-8 à cause des conditions de travail. Les conditions de vie que ça implique pour travailler en 3-8. Et bien maintenant, ils sont remontés à 35 heures au travers de l'accord. Donc ils ont augmenté leur durée hebdomadaire de travail de 3 heures. Voilà. Au moins la compétitivité de revenus.
Oui, bonjour. J'ai bien compris donc, que cet accord était globalement défavorable aux employés et qu'il y a plus de cadeaux aux employeurs. Il y a un point qui m'a gêné, justement, c'est sur la sécurisation de l'emploi. Moi, j'ai deux exemples concrets. Allemand, en Allemagne, il y a une fois un groupe d'air, arrivé à un accord pour baisser les travaux de 20%, les assédiques locaux complétaient 10%, et tous les salariés ont accepté une baisse globale de 10% de leur salaire. Pour ne pas licencier, il y a eu zéro licenciement, au bout d'un an l'activité a repris et tout le monde a repris un travail à temps complet. Ça m'est arrivé il y a 3 ans, boîte allemande, même chose, difficulté financière, donc soit on licencie, soit tout le monde accepte de baisser 10%, j'ai si bien maintenant, acceptant de diminuer tout mon salaire. Là vous dites, si jamais le salarié il refuse, il est licencié, c'est pas social, il n'y a pas de solidarité. En France, ça apparaît plus ce genre de baisse volontaire du salaire.
On dit, si on... Bosch, il y a 10 ans, Continental, oui, ils l'ont fait, il y a eu plein. Et ça a fini comment?
Je ne sais pas comment ça a fini, mais...
Continental, vous voyez comment ça a fini.
Oui, pour le Continental, c'est un exemple un peu extrême. Dans le cas, là, si on parle de sécurisation de l'emploi, il s'agit d'accepter pendant une période limitée, une fois qu'on a fait un accord avec les salariés sur une baisse du temps de travail, une baisse des salaires. Si les assédiques acceptent de prendre, plutôt que de payer des chômeurs, acceptent de prendre en compte une partie du salaire, c'est ce qui se fait en Allemagne. Hein. Donc ça doit être possible en France.
Ça existe en France, hein, il y a le chômage partiel.
Le chômage partiel. Mais là, je ne pense pas que les assédiques... de prendre en charge. La convention MEDIC va être renégociée hein, cette année et le MEDEF justement dit nous on ne peut pas payer plus et par ailleurs il faut plutôt réduire les droits vu que le chômage augmente et donc il y a un déficit des assédiques du MEDIC donc il faut plutôt réduire les droits. Donc ça m'étonnerait qu'ils acceptent de prendre en charge partiellement un complément de salaire. Sinon, dans le cas du chômage partiel,
c'est ça, on licencie 20% du personnel. Donc, les assédiques, ils sont gagnants.
Alors, le marché du travail en Allemagne est très particulier par rapport à votre observation, qui est juste. Mais le marché du travail en Allemagne, d'abord, les entreprises ont du mal à avoir des salariés qualifiés et formés. Donc, ils cherchent à garder leurs salariés. Et donc, quand ils sont dans une démarche comme ça, c'est aussi pour préserver le savoir-faire au sein de l'entreprise. On n'a pas tout à fait cette démarche-là en France. Et aussi, comme disait Françoise, en effet, le marché du travail, la baisse de salaire est compensée en Allemagne, alors que ça ne l'est pas en France. Donc, voilà, les conditions, je pense, ne sont pas similaires. C'est un peu la même...
Oui, après, il y a des propositions sur le
site.
Oui, c'est ça.
Oui.
Non, oui. Monsieur, le monde du travail et du social, également, n'a rien à voir. En Allemagne, il y a la COGEC. Pourquoi? La COGEC. C'est-à-dire que toutes les entreprises de plus de salariés, c'est dans les conseils d'administration, c'est paritaire.
C'est 50
ans. Représentants des salariés et actionnaires. Qu'on fasse la moitié de ça. Parce que le problème de la en plus, il y a un rapport de force. En France, il y a 2% de salariés, on a même l'être à la fin. Voilà. Par contre, pas partout, hein. Bon, c'est pas le cas. On a dans les branches classiques, avec les allergies, automobiles. C'est évident que si on avait 90% de salariés, qu'on avait 15 syndicats par branche, ou pas 5 syndicats, pas ça n'existe pas. Et si on avait la cogestion, peut-être que ça s'applique. Parce qu'on aurait les moyens, le rapport de force pour faire que ça ne soit pas grave. Or, chez nous, on l'a bien dit, il n'y a pas d'instruction de parler de moi, les gens ne sont pas syndiqués, les syndicats sont bouffés, les syndicats sont bouffés, donc la situation est complètement différente. Donc, ce qui est vrai pour l'Allemagne, pour la France, on n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans le même univers, donc c'est ça qui parle.
C'est peut-être dans le sens là qu'il faut pousser le.
Qui vous parle
et d'ailleurs,
quand on lit
dans le projet de loi et ce qu'on présente comme étant un avantage pour un droit supplémentaire collectif pour les employés, on octroie un siège pour les salariés dans les conseils d'administration où il y a moins de 12 membres, un salarié sur 12. Et deux au-dessus de 12. Donc le modèle allemand, on sait le prendre pour certaines choses, et puis pour d'autres, non. Mais on se targue quand même dans cette disposition-là. Je vous invite à lire l'étude d'impact de la loi, qui est hyper intéressante. Vous trouverez sur le site de l'Assemblée nationale, où on vous explique qu'on fait comme l'Allemagne, en mettant les salariés au conseil d'administration. Mais de qui se moque-t-on ? 1 sur 12.
Dans les grandes entreprises.
Et uniquement, il y a 229 entreprises concernées, voilà. Puisque c'est uniquement les entreprises qui ont 10 000 salariés au monde, dans le monde, et 5 000 en France. Et 5 000 en France. Il y a 229 entreprises concernées en France. De qui se moque-t-on ?
Oui, c'est juste une question de détail. C'est CHSCT, je ne sais pas ce que c'est.
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
D'accord. Comme c'est.
Ce sont des membres qui ne sont pas élus comme le comité d'entreprise, mais désignés par le comité d'entreprise, les représentants du personnel.
Comité d'hygiène, de
sécurité et de conditions de travail.
Merci beaucoup.
J'aimerais avoir votre éclairage sur un point, parce que vous parlez du projet de loi depuis tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que le projet de loi, je suis d'un accord national à l'APRO. Signé par les trois organisations patronales et les trois organisations salariales nationales. Elles ont signé. Alors, question, et parmi les signataires, il y en a une en particulier qui pèse l'eau. Donc, question, quel est, ça rebondit un peu sur l'échange qu'il y a eu précédemment, quel est le poids des syndicats de salariés en France ? Qu'est-ce qui a pu, bon, le poids, je ne demande pas un. C'est-à-dire, quel est le poids, qu'est-ce qui a pu les amener à signer cet accord-là, sachant qu'effectivement, deux syndicats ne le signeraient pas. Et est-ce que ça ne donne pas, malgré tout, une certaine crédibilité à ce texte, puisqu'il a été, il ne tombe pas comme ça du ministère ou du pouvoir public, il vient de la base. Quel que soit l'opinion qu'on puisse en avoir,
négocier dans le
La base, toute la base de la CFDT sont très d'accord avec la signature par la CFDT, en tout cas par des organisations syndicales, ça c'est sûr.
C'est une organisation syndicale représentative.
Oui, tout à fait. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça représente en termes de syndiqués? Je crois que c'est 8% des syndiqués en France privés et publics, d'accord, et 3% dans le privé. C'est 3% de syndiqués dans le privé en France. D'accord. Donc c'est pour vous donner l'État.
Mais il y a 80% des salariés qui votent aux élections professionnelles.
Alors après, par contre, les salariés sont très minoritairement syndiqués, mais par contre, votent lors des élections professionnelles, CE, délégation du personnel, délégué du personnel, et donc c'est au travers de ce vote qu'a été calculée la représentativité des organisations syndicales. Alors je crois que la CFDT obtient 26% des voix dans ces eaux-là. Donc c'est la deuxième organisation syndicale en France. Ça, il n'y a pas à dire. La première étant la CGT a très peu de pourcentage. Hein, c'est 0,7% de différence en termes de pourcentage. Ensuite la CFDT, etc. Bon. Alors, les organisations syndicales, elles ont effectivement signé. C'est-à-dire, CFDT, CGC et CFTC. Alors, elles font, quand on calcule, parce que les chiffres ont été sortis de leur poids respectif suite à toutes ces élections depuis 2008 qui ont été collectées, je ne vous dis pas comment, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, les chiffres sont sortis, ce qui permet au gouvernement de faire apparaître, parce qu'on ne savait pas quand ça a été signé, que c'est des organisations syndicales qui représentent plus de 30% des voix aux élections professionnelles qui sont signataires. Bon, alors, tu as donné le chiffre, c'est 38,7, d'accord. Additionnées, elles font 38,7. Bon, alors, donc, c'est pas quand même ultra majoritaire, parce que pour moi, la majorité, c'est 50%. C'est pas majoritaire.
D'accord, mais elles représentent malgré tout.
Ah, bah oui, elles représentent un peu plus d'un tiers du salariat. Voilà. Mais un tiers du salariat, c'est pas la majorité du salariat. Je regrette, quand même. Bien. Alors ça, c'est... Non, mais eh oui, si la démocratie sociale, c'est la démocratie sociale, moi, je suis pour que les accords ils soient majoritaires. Enfin, moi, je ne me bats pour. C'est pas du tout sur ces textes, mais je me bats pour.
Donc, si je vous entends bien, ce texte, l'ami n'aurait pas pu avoir, ne devrait pas avoir de légitimité, puisqu'il n'est pas signé par au moins 50%
des syndicats. Il a une légalité juridiquement. Je ne remets pas en cause la légalité de cet accord, puisque les accords doivent obtenir 30% des voix. Mais je pense que légitimement, il y a un problème. Il y a un problème de légitimité quand même d'imposer des reculs pareils par une minorité des salariés, enfin des organisations syndicales qui ne représentent pas une majorité de salariés, même si elles sont représentatives, ça je. C'est quand même un petit peu gênant de mon point de vue. Et puis l'autre aspect, c'est les organisations syndicales signataires disent « mais on a obtenu des choses ». On a obtenu des choses, la taxation des CDD, on a vu ce qui a été obtenu réellement. On a obtenu la lutte contre la précarité par rapport au temps partiel, les 24 heures, on a vu aussi la réalité. Et puis, alors, un point sur lequel je suis beaucoup plus embêtée, parce que je ne connais pas grand-chose, Gérard Filoche, que vous avez entendu tout à l'heure, est beaucoup plus brillant que moi sur la matière, c'est la couverture...
Je vais vous mettre l'extrait.
Les complémentaires dans les entreprises, dans les petites entreprises. Donc ça, là-dessus, je ne m'avancerai pas trop, parce que ça peut apparaître comme quelque chose d'intéressant. Enfin, de bien pour les salariés qui ne sont pas couverts pour partir. Souvent c'est demandé les négociations sur ce point-là par les salariés. Bon, mais Figoche dit que ça ne vaut pas mieux que la CMU. Alors, si ça ne vaut pas mieux que la CMU, l'intérêt quand même
à la CMU, hein, complémentaire.
Si on a droit à la CMU et que la contrepartie, c'est d'arriver à la CMU
en dessous,
parfois d'accord ou en dessous de la CMU, je regrette que ça valait franchement pas le coup.
Je vais passer l'extrait. Oui, encore une question et puis je vais passer. On va passer parce que leur fille, si vous voulez tout.
Juste une remarque par rapport à la légitimité de notre représentation. Le débat peut être, il est un peu en dehors parce que c'est pas que le que dans le travail, mais ne serait-ce que pour les élections, ils ne tiennent pas compte des nuls ou des blancs et de l'abstention. Ce qui compte, c'est arriver à un quorum, et un quorum qui est bien en dessous de ce qu'on a perdu à la majorité. Donc on sait, et là, ça, souvent, ça pose des problèmes de représentativité. C'est pour ça que prendre le mal à aller dans le sens de voter, parce que c'est difficile de constater. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas voter, ça fait voter difficile. Même l'adhésion au syndicat, des choses, on voit des accords comme ça.
Enfin, le quorum ne joue que pour les organisations dans les élections professionnelles. C'est un peu technique. Le quorum, c'est qu'il faut avoir 50% plus une par rapport aux électeurs. Néanmoins, ne joue que pour les organisations syndicales au premier tour. Au second tour, un candidat hors organisation syndicale, il vote pour lui-même, il est élu. Hein. C'est vachement démocratique, ça. Donc voilà,
les idées de quorum. Une dernière question, Fiche.
J'ai bien compris qu'on avait un peu les moyens de se faire la question. Et moi, je peux vous dire qu'à Renault, parce que j'y travaille, c'est quoi les conditions pour rentrer dans le cadre de la proposition du Rétomonde? Parce qu'on dit que ce soit un licenciement économique. Chez Renault, il y avait pas de question de licenciement économique. On nous a dit on a une perspective sombre dans les années qui viennent. En gros, vous n'êtes pas encore dans le trou, mais vous allez y aller, donc on peut bien, on va commencer à faire le sacrifice. Là, dans l'accord, qu'est-ce qui est prévu comme condition pour entrer dans le licenciement?
Dans l'accord.
C'est ce que je disais. Dans l'accord de maintien de l'emploi, donc qui peut jouer sur la durée du travail, sur les salaires, l'aménagement du temps de travail, la condition, c'est des difficultés conjoncturelles.
C'est-à-dire que si au lieu de faire 15% de marge, il n'en fait que 12, la difficulté conjoncturelle est avérée.
Ça, c'est tout le monde qui a pas.
Voilà.
Surtout en ce moment, ouais.
À partir du moment où...
Il n'y a aucune condition. C'est ça, l'article.
Ah, c'est ça, l'article.
C'est grave difficulté conjoncturelle.
Voilà, c'est bien.
Il y a un accord. Tu calmes. 30 ou 50, tu vas pas mettre
plus. Pardon ?
Il faut qu'il y ait un accord.
Avec 50% avec les organisations syndicales qui ont recueilli 50% des voix sur cet accord-là. Sur la mobilité géographique, là c'est plus simple parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de condition. Je suis désolée, il n'y a pas de condition. Là c'est signé par des organisations syndicales qui ont recueilli 30% des voix. Donc c'est plus facile à obtenir quand même comme accord. Et là on revient au lycée. On dit licenciement économique individuel. Alors, au départ, c'était même pas un licenciement économique individuel. Hein, avant le projet de loi issu de l'accord national, c'était un licenciement de facto. Par le simple fait que le salarié ait refusé, c'était un licenciement de facto. Et puis, quand même, le projet de loi a été présenté devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a dit non, il y a des conventions internationales qui disent qu'il faut un motif réel et sérieux au licenciement. Or là, le simple refus du salarié face à un accord qui modifie son contrat de travail, on dit c'est un licenciement en soi, et on dit non, ça c'est pas possible. Et du coup, ils ont modifié, ils ont introduit le licenciement économique comme motif individuel. Enfin, le motif pour le motif économique.
Et pour rentrer dans cet accord, il n'y a pas de condition pour augmenter la durée de temps de travail quand il y a un problème conjoncturel et qu'on augmente les temps de travail.
La seule condition, c'est de respecter les 120% du SMIC. En termes de baisse de salaire, le plancher est de 120% du SMIC. C'est la seule condition. Et puis après, il ne faut pas licencier par le devant. Normalement.
C'est ça. On va avancer un peu. Oui.
comment se fait-il qu'ils arrivent à signer des trucs comme ça? Là, là, c'est... là, ça appelle une réponse peut-être un peu plus politique, mais j'aimerais bien avoir une réponse à cette question. Comment se fait-il que ce soit possible que les gens qui sont là pour défendre les salariés en arrivent à signer des trucs comme ça? Moi, honnêtement, je n'arrive pas à... Autant sur le plan politique, des gens se fassent séduire sur un programme où c'est des promesses n'engagent que ceux qui croient, c'est plus connu. Mais au point de vue syndical, ça, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Peut-être naïf.
Je
n'arrive
pas à
continuer un peu. On va continuer. Juste en transition, en fait, ce que. Alors, je vais faire ça plus avancer, le machin. Si vous dites, vous. Ah, si, ça y est. Ça, c'est pas. Il suffit que tu te lèves, il a peur.
On va voir.
Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, l'objectif donc, que je vous ai. Présenté tout à l'heure donc, à ce projet de loi, c'est l'accès à l'emploi, la lutte contre la précarité et la sécurisation donc, de l'emploi. Et donc, je voulais simplement, pour qu'on réfléchisse là-dessus, dire que ce n'est pas ce projet de loi qui va créer de l'emploi. D'ailleurs, ce n'est pas le but, ça ne s'appelle pas création d'emploi, ça s'appelle sécurisation de l'emploi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et si vous lisez l'étude d'impact, vous verrez qu'en fait que le postulat de cette loi, c'est de dire plus on licencie facilement, plus on embauche facilement. Puisque c'est logique, on peut se débarrasser facilement des salariés. Donc sachant cela, un employeur ne va pas hésiter à embaucher quelqu'un. Et bon, ce qui est complètement débile comme postulat, puisque un patron ne va pas embaucher sachant qu'il va pouvoir licencier, mais il va embaucher parce qu'il a besoin de salariés pour remplir une tâche qui va lui permettre de faire tourner sa boîte. Et en fait, on se rend compte, alors je ne vous ai pas mis les choses, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site de Husson, vous trouverez les références sur le site d'Attaque Clamart, hein, où en fait... Husson explique, graphique à l'appui, qu'il n'y a embauche que quand il y a activité et que la rotation de main-d'œuvre dépend uniquement du volume de valeur ajoutée produit par l'entreprise et certainement pas parce qu'on peut licencier plus facilement. Donc voilà les trucs complètement aberrants, les postulats de départ qui sont débiles.
Le MEDEF dit la rigidité du code du travail nous bloque pour embaucher. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'anticipation, c'est leur point de vue hein, qu'ils avancent, d'anticipation des difficultés de licenciement qui serait un frein à l'embauche et qui expliquerait le chômage, bien évidemment. Et donc, plus de rigidité dans le code du travail pour licencier, eh ben, les entreprises ouvriraient grand les portes de l'embauche, sachant que facilement se débarrasser des salariés derrière, et donc on résoudrait en totalité ou en partie le problème du chômage. C'était déjà l'argument en 86 pour supprimer l'autorisation administrative de licenciement, en disant on supprime l'autorisation administrative de licenciement pour les détenus, vous verrez ce qu'on va embaucher là, ça va donner à fond. Bon, on n'a pas vraiment vu, et puis là, il ressort le même argument complètement éculé,
Mais ça marche.
Enfin, ça marche pas auprès de nous, mais ça marche.
Ça marche.
Auprès du gouvernement, auprès des...
Peut-être que dans certains cas...
Bah, en tout cas, à une échelle nationale, on n'a pas vu l'effet post-86. Ça, c'est sûr, statistiquement, on voit bien hein, s'il y a eu un flux d'embauche en 86, tout simplement par la suppression de l'autorisation administrative de l'association dans les années dernières, à certains lieux. Effectivement, soit il y a une activité économique assez bonne, et les employeurs embauchent, soit il y a pas mal de départs en retraite, il y a tout un flux d'embauches importantes pendant toute une période, puisque les départs en retraite étaient assez importants avant la crise de 2008, hein, pendant 2-3 années, le chômage baissé du fait des départs en retraite et des embauches concomitantes. C'est ça qui peut expliquer les embauches.
Ton argument avait été aussi avancé au moment de la mise en place des 35 heures. C'est pas pour autant que ça a été énormément d'emplois.
Alors, oui, c'est vrai que la mise en place des 35 heures a créé des emplois temporairement, mais après, ça s'est réduit.
Alors, les 35 heures, c'est 70% des 2,4 millions emplois créés au cours des 30 dernières années. Et on y reviendra après. On y reviendra après.
La fonction publique, notamment, ça doit être énorme. Il y a l'hôpital encore plus.
Là, c'est dommage que ça... Enfin bon, on rentrera dans le débat après, mais... Et puis sinon, autre chose par rapport à l'accès à l'emploi et à la lutte contre la précarité, c'est la cohérence dans la politique publique de l'emploi. On fait un ANI et on n'articule pas ça avec les emplois d'avenir, avec les contrats de génération, avec le crédit d'impôt compétitivité emploi. Et donc on ne sait pas comment va fonctionner l'articulation, par exemple, entre l'exonération de cotisations pour les embauches en contrat de génération avec celle des embauches des CDI des jeunes de moins de 26 ans, ou les efforts qui sont demandés aux mandataires sociaux et aux actionnaires dans le cadre des maintiens de l'emploi avec ceux du crédit d'impôt compétitivité emploi. Enfin, voilà. On a vraiment, ce qui nous manque, et ça répond peut-être à votre réponse, c'est qu'il n'y a pas de politique publique de l'emploi réfléchie, cohérente. On fait des trucs un peu n'importe comment, n'importe sens. Voilà. Alors pour les nouveaux droits pour les salariés, donc on va y venir. Donc on a cette complémentaire santé. Donc je vais vous passer, je vous fais deux commentaires. La complémentaire santé, et après je vous passerai la vidéo de Philoche, donc en fait qui déjà ne sera en vigueur qu'au 1er janvier 2016. Donc là il y a une négociation qui va rentrer en œuvre, et j'ai trouvé ça assez intéressant au niveau des chiffres qui sont donnés par l'étude d'impact aussi de la loi. Donc je vous invite à aller la lire. C'est 400 000 salariés couverts supplémentaires. Ça coûtera entre 1,5 milliard et 2,1 milliards à l'État. Parce que, en fait, il va y avoir des abondements, si j'ai bien compris. Et donc, du coup, en fait, on va verser cet argent-là aux assurances privées au lieu d'abonder une sécurité sociale qui est déjà quasiment exsangue. Et voilà. Et moi, je trouve ça fou. D'autre part, donc le panier de soins, il est à minima. Donc, il est moindre. Donc, c'est 100 euros, par exemple, sur une paire de lunettes, alors que la CMU complémentaire prévoit 173 euros par an pour une paire de lunettes. Juste, évidemment, ce n'est pas écrit encore, puisque ça va être des négociations ultérieures, mais ce qui est prévu, c'est ça. Et un partage du coût entre le salarié et l'employeur à 50-50, alors qu'aujourd'hui, les complémentaires santé sont à la charge en moyenne 57% de l'employeur, 43% le salarié. Et dernière chose aussi, les complémentaires santé entraînent des baisses de cotisations sociales et des baisses d'impôts pour l'entreprise dès lors que les contrats sont dits responsables, c'est-à-dire qu'ils ne remboursent pas les franchises et les 1 euro là, et les 50 centimes par boîte de médicaments. Voilà. Donc, juste pour dire que c'est un marché qui va être ouvert en réalité aux entreprises privées. Alors, comment je fais là pour passer ma vidéo?
Surtout qu'ils n'en ont pas à l'heure actuelle. Alors, écoutez bien le détail. Ça serait ça.
50-50 payés par les employeurs et les salariés. Sachez qu'aujourd'hui, la moyenne de ce que payent les employeurs pour les complémentaires santé, c'est 57% et les salariés 43%. Là, ça sera 50-50. Le MEDEF a grappillé sur tout le monde, c'est d'accord. Et la grappille. Ensuite, deux, ça sera pour un panier de soins réduit. N'allez pas croire que ça compensera ce que la sécurité sociale vous rembourse pas. Il y a même des exemples dans la vie. La lunette, pour l'année, ça sera 100€. Même la CMU complémentaire dit c'est à peu près 173€ par an pour une lunette. Dans la vie, la prothèse dentaire, ce sera à rembourser les distilles. Je n'ai plus une question de faire quoi, 125% de taux de remboursement. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire en gros 125€, alors que la CMU complémentaire est autour de 157€. C'est moins bien comme panier de soins que ce qui existe déjà dans quantité de mutuelles, de caisses. Et puis ça suffit les caisses. Pourquoi on empile la sécurité sociale, les mutuelles, les caisses complémentaires, les caisses de prévoyance et les assurances? Pourquoi s'il y a des milliards, 4 milliards, ils disent là, pourquoi ils ne font pas la sécu? Dites-moi pourquoi ils ne font pas la sécu. À quoi ça sert s'il y a de l'argent de mettre ailleurs? De pourquoi ça sert, ça ne va pas dans les caisses sécu? Je vais vous dire. Parce qu'ils se sont battus même entre les syndicats qui ont signé la ligne et le patronat sur qui allait décider pour où va l'argent. En général, ça se décide au niveau des branches. Au niveau des branches. Là, ça va se décider au niveau de l'entreprise par le chef d'entreprise. Là, il n'y a plus de dialogue là. Il n'y a plus de dialogue social. Il n'y a plus de contrat. C'est le chef d'entreprise qui va décider où va l'argent. Et figurez-vous que AXA, Alliance, Generali, ils ont sablé le champagne le soir de la signature de la ligne. Parce que c'est pour eux. Parce que ça sera en 2016. Ah oui, vous ne croyez pas que c'est tout de suite un complémentaire santé. Parce que vous ne croyez pas non plus que beaucoup de choses de la vie s'appliquent maintenant. Presque tout, et soit dans la deuxième partie 2013, soit en 2014, soit en 2016. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement rien qui pèse contre le chômage aujourd'hui ou qui vous fait avancer aujourd'hui. Là, ça sera pour le 1er janvier 2016, les complémentaires décidés par les employeurs où va l'argent. Et pourquoi en 2016? Parce qu'il y a une directive européenne qui s'appliquera. Et cette directive européenne permet que les URSSAF, écoutez, les URSSAF n'aient plus le monopole de la collecte des cotisations sociales. C'est comme les trains privés sur les rails SNCF. C'est comme ceux qui vous ont vendu du gaz de là contre EDF, ou de l'électricité contre RTF. C'est-à-dire que les assurances pour venir voir l'employeur, ils mettent en place les prospecteurs. Prospectus. Parce que vous allez en recevoir qui iront voir l'employeur en disant vous n'êtes plus obligé, vous êtes obligé de passer les cotisations sociales, mais vous n'êtes plus obligé de le faire à l'URSSAF. Je vous propose de les collecter. Je vais vous dire que ça, c'est une destruction progressive, lente mais sûre, de la sécurité sociale. Et que si vous avez derrière la complémentaire santé le choix au niveau de l'entreprise qui n'est plus au niveau de la branche, alors la mise en concurrence, comme ils disent dans leur jargon, de la sécurité sociale sera complète. C'est ça la vie. C'est pas la complémentaire santé qui vous rend tout jeunesse. N'allez pas croire une seule seconde qu'il y a un progrès dans la complémentaire santé. C'est moins bien, je le répète, que la CMU complémentaire. C'est plus cher pour le salarié. Le panier de soins sera plus petit. Et ça ira dans les caisses des assureurs privés, des grosses assureurs privés. Et ça sera un coup contre la sécurité sociale. Ah oui, mais attendez, il y a la sécurité.
C'est pas mal, hein? Ça vous plaît? Je vais vous repasser une autre petite aussi extrait de Filoche. Ouais, tout de suite, comme ça, ce sera fait, on pourra discuter après. En fait, des droits rechargeables au chômage, parce que tout le monde nous dit que c'est absolument formidable, on va avoir des droits rechargeables au chômage. Alors, la même, ouais. La même à 37,55. Et donc, en fait, ces droits rechargeables au chômage, Filoche va vous expliquer. Alors déjà, moi, je ne comprends pas parce que on a déjà des droits rechargeables au chômage. 37,55. Et en fait, ils disent qu'ils vont faire plus, mais avec autant d'argent. Donc, vous allez voir, il y a un petit...
On va le mettre en pause.
37.
J'ai mis 38.
Rechargeable pour le chômage. Ça va bien ce que c'est d'ailleurs. Vous faites qu'est-ce que c'est des droits rechargeables pour le chômage? France, c'est pognon jaune, tendu, à droite. Bah, 8 mois, vous avez. Et alors, il y a le soupçon qu'un chômeur, il ne réagisse qu'au bout forcément de ces 8 mois pour ne pas travailler, quoi. Alors, pour lui permettre, avant les 8 mois de travailler, si on est proposé un plan qui peut durer 2 mois. Alors, il fait 2 mois, on va lui proposer un plan 2 mois, et quand il revient, il retrouve ses droits anciens. Entre nous, c'est quoi, normal. Si vous pensez ça comme une trouvaille, droit rechargeable, pour charger. Ouais. Mais il y a une expression terrible dans la vie. Ils vous disent au fil de l'eau, ex poste. Alors là, vous allez au fil de l'eau, ex poste. Et faut lire, hein. Je vais vous demander ce que ça veut dire. Alors, pour l'emploi, vous le diront, il y a quelqu'un du Pôle emploi. Si vous n'allez pas dépenser un sou de plus au Pôle emploi pour ça, il faut que ça soit au fil de l'eau. Ex poste, c'est qu'on va a posteriori vérifier qu'il n'y a pas de dépenses supplémentaires par là. Et en plus, c'est pas dans l'indivoiement. Parce que c'est renvoyé à la convention médiatique qui sera discutée en juillet. Tout ce que je viens de vous dire, c'est pour rien. Tous ceux qui vous parlent d'un droit rechargeable, ils savent pas, c'est un droit déchargeable, pas rechargeable. Et ils ne savent même pas que c'est pas dans l'année, puisque c'est renvoyé à une autre négociation, qui elle-même va dire que si ça vient, ça coûtait un tout petit peu plus cher. C'est ce que Paris aurait dit. Il faut une dégressivité à nouveau des indemnités de chômage. Ah, rien, vous n'avez pas un acquis derrière droit rechargeable au chômage. Et pourtant, on va vous souriller les oreilles. J'ai déjà entendu 5 radios vous le dire. 10 à 15, 20 articles de presse vous dire qu'il y a des droits rechargeables pour le chômage. Ils sont déchargeables, vous n'aurez pas un centime de plus. Et si ça se trouve, ça va finir par des indemnités dégressives à nouveau. Ah, oui, vous avez bien vu, vous allez voir.
Et voilà. Donc, voilà les droits individuels et collectifs et ce que les salariés ont gagné avec vont gagner, parce qu'il n'est pas encore définitif, vont gagner avec ça. Donc ça on l'a vu. Donc les salariés au conseil d'administration des entreprises, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, ça concerne 229 entreprises en France. Donc on a aussi bon voilà le compte individuel de formation qui va être transformé, la prescription, dans ce que tu le disais. Et pour essayer de ne pas partir en étant trop démoralisé, parce que sinon là on va se foutre une balle. Mais je voudrais dire deux choses déjà. Ce que j'espère, c'est que il y a pas mal de dispositions qui sont limites au niveau constitutionnel dans le projet de loi. Donc dans la loi, ça va se retrouver de la même manière. Et aussi qui sont anti-Organisation internationale du travail. Donc même si certaines choses ont été un petit peu modifiées pour tenir compte de ça, donc moi ce que je crains, c'est que une fois de plus, parce qu'on commence à avoir l'habitude depuis juillet, c'est que toutes les lois du flot, enfin bon, je vais pas toutes les énumérer, ça foutrait la honte, que le gouvernement actuel fait voter, sont censurés et finalement ne trouvent pas application. Alors, ça serait super que cette loi, elle soit de nouveau censurée, mais franchement, quoi, on a l'air de quoi à gauche?
Alors, le problème, quand même, pour qu'elle soit censurée, il faut qu'il y ait une saisine du Conseil constitutionnel. Or, le groupe UMP se tâte de saisir le Conseil constitutionnel, mais les pressions du MEDEF sont énormes à l'heure actuelle pour que le groupe UMP ne saisisse pas le Conseil constitutionnel. Et c'est le seul.
C'est 60 sénateurs ou 60 députés.
Voilà. Donc, du coup, le PS ne va pas le faire, ça c'est sûr. Les autres sont en nombre insuffisant.
Donc il nous restera la question prioritaire de constitutionnalité quand on ira devant le juge. Bon, comme quoi rien n'est perdu. Hein. Merci Sarkozy d'avoir fait voter la QPC. Donc voilà, bon, mais de toute façon...
Donc, pour l'instant, on n'en sait rien. Ça va, ils discutent entre eux, mais il faut savoir si c'est...
Donc ça sera peut-être passé, mais bon, néanmoins, ce qu'on a envie, nous, à ATAC, c'est de vous dire qu'on a des alternatives. On n'est pas seulement là à se morfondre entre nous et à relever les difficultés qui sont devant nous. Et donc, bon voilà, j'ai listé quelques quelques alternatives. Donc, par exemple, partager les richesses en baissant le coût du capital, parce qu'on nous parle du coût du travail. Le travail coûterait cher. Et le coût du capital, est-ce qu'il ne coûte pas cher? Il coûte cher aussi. Donc, ça, une piste, ça pourrait être de dire, eh bien, écoutez, plutôt que d'avoir des rentabilités à 15, 16, 18, 20% pour les actionnaires, diminuez un peu votre rentabilité, revenez à des niveaux de rentabilité plus raisonnables, donnez-en un petit peu aux salariés, parce que les salariés, s'ils ont plus d'argent, ils vont satisfaire leurs besoins, donc ils vont consommer, donc la croissance va s'améliorer, donc on va collecter dans les caisses de l'URSSAF, qui collecte encore des cotisations sociales, on va pouvoir faire de la protection sociale, et voilà comment l'économie pourrait redémarrer. Donc, partager les richesses, partager le travail. Alors, on en parlait tout à l'heure avec monsieur, passons aux 30 heures par semaine, pour de vrai, avec obligation d'embauche, et surtout des 30 heures qui ne soient pas comme les 35 heures, échelonnées sur 10 ans ou 15 ans, avec des dérogations en pagaille, avec un service public qui n'applique pas, avec... bon, voilà. Par rapport à ça et à la précédente proposition, je voulais vous montrer un petit graphique que j'ai trouvé dans la revue extrême gauchiste, hein, qui s'appelle Le Figaro, et qui montre qu'on travaille peu mais qu'on a une forte productivité en France. Et donc je trouve que c'est intéressant de montrer ça, parce qu'on l'oublie souvent. Et en fait, on a une productivité de la manœuvre par heure travaillée en 2011 de 45,40 €, alors qu'aux États-Unis, elle n'est que de 41,50 € et 37 dans la zone euro. Et pour comparer avec l'Allemagne, elle est à 42,30 € en Allemagne, par exemple. Donc on a une productivité bien meilleure que l'Allemagne. Donc, c'est dommage que les messieurs soient... Oui, horaire. Oui, oui, horaire. Donc, on n'est pas si pauvre que ça. Il y a de l'argent en France. Et puis, une autre alternative, ce serait de sécuriser l'emploi aussi. C'est-à-dire renforcer le code du travail au lieu de le déconstruire, donner du pouvoir aux inspecteurs du travail et en recruter, évidemment, pour qu'ils puissent faire le travail, interdire les licenciements boursiers, limiter le nombre de contrats précaires dans les entreprises qui tournent à 20 ou 25% de contrats précaires, est-ce que c'est bien raisonnable? Je peux vous redonner un chiffre qui est assez, assez intéressant. Alors, vais-je le retrouver? Sur le nombre de 6 emplois sur 7 en 2012 sont des CDD, des nouveaux emplois, des nouvelles embauches. 6 sur 7 se font en CDD en 2012. Enfin, bon, c'est aberrant, quoi. Renforcer les institutions représentatives du personnel, élire des salariés au CA avec une vraie parité, 50-50, pour que le salarié puisse avoir un pouvoir sur la gestion de l'entreprise. Sans salariés, les entreprises ne tournent pas. C'est con à dire, hein, mais... Et voilà, fin du diaporama. Donc, je ne sais pas si vous voulez une petite série de questions.
Une question, vous avez un peu abordé là. Paris a dit que je ne serais pas le droit de faire en retraite par rapport à ce qui a été négocié. Et il y a eu un débat aujourd'hui entre tous les autres députés.
Germain,
oui.
Ouais.
Ouais. Et alors, moi j'ai plutôt tendance à croire que mais
Mais Germain a dit, mais il y a des tas de choses qu'on a modifiées dans la loi par rapport à l'accord de Annie, c'est pour ça que c'est acceptable par nous. Qu'est-ce que alors moi je dis que dans le débat, j'ai entendu des annonces de la question, mais je ne sais pas trancher, est-ce que effectivement il y a des changements et des choses.
Alors il y a quelques changements, par exemple, quand je vous parlais des accords de maintien dans l'emploi, donc pour une durée de 2 ans. Si l'employeur ne respecte pas l'accord de maintien de l'emploi, parce que évidemment le risque, et en plus la jurisprudence n'est pas très bonne, hein, parce qu'il y a eu des accords, comme disait Nathalie, déjà, où l'employeur s'engageait à ne pas licencier pendant 2 ans, en contrepartie de baisse de salaire, d'augmentation de la durée du travail, etc. Et puis, la situation économique s'aggravait, et au bout d'un an, il licenciait quand même. Et les juges, alors les syndicats ont attaqué les licenciements en disant bah, attendez, il avait signé un accord, c'est pas possible, on a accepté les sacrifices, il ne faut quand même pas exagérer en contrepartie du maintien de l'emploi. Et les juges ont dit bah, tant pis, ça vaut rien, donc l'employeur il peut procéder au licenciement. Donc là, ce qui a été rajouté dans le texte, c'est que, un, si l'employeur ne respecte pas ses engagements, les salariés ou les syndicats peuvent saisir le juge par voie de référé, c'est-à-dire appliquer une ordonnance rapide du juge obligeant l'employeur de respecter ses engagements au travers de l'accord. Et puis la deuxième chose qui a été introduite toujours sur ce point-là, c'est que si la situation, les graves difficultés conjoncturelles auxquelles l'accord était censé répondre pendant 2 ans, puis au bout d'un an, on s'aperçoit que la situation s'améliore. Et pourtant, l'accord, il dure 2 ans, avec des sacrifices des salariés pendant 2 ans. Les syndicats et les salariés peuvent saisir aussi le juge en vue de mettre fin à l'accord. De mettre fin à l'accord dans le sens où les contreparties s'arrêtent, puisqu'ils peuvent établir qu'il n'y a plus ces graves difficultés conjoncturelles. Voilà, c'est ce genre de choses qui ont été introduites, effectivement, dans une loi qui n'existait pas initialement.
Tu disais aussi sur la validation de l'accord de licenciement,
oui,
qui est passé de 8 jours à 15 jours. La parité dans la représentation des salariés dans le conseil d'administration, hommes-femmes.
Hommes-femmes, c'est ça.
Ouais. Ça a été rajouté aussi, c'est très important. Hein.
Mais c'est vraiment la marge.
Les critères aussi, il y a eu quelque chose sur les critères de la mise en concurrence au niveau de la complémentaire santé. Je ne sais pas si ça a été conservé.
J'ai pas trop vu là dans le truc. Bon, l'UPA, la Union professionnelle des artisans, a hurlé parce qu'effectivement, ça avait été modifié par le Sénat, je crois, le texte. Et et je ne sais pas du tout comment ça a été touché après hurlante de l'Union professionnelle des artisans qui a dit
Et en fait, la complémentaire santé s'est renvoyée à un décret. Ouais. La mise en concurrence sera, voilà ce qu'a prévu, en fait, ça a été modifié, c'est que c'est renvoyé à un décret. Mais le fond n'est pas modifié, enfin, c'est des petites choses à la marge, histoire de faire plaisir à Germain, quoi, pour qu'il dise qu'il y a eu des mieux.
C'est avec cette marge que Germain meurt. Qu'il explique qu'il y a eu un gros travail par le couvert, et c'est avec cette petite marge qu'il sauve des emplois. Et sur France Inter, il disait bien en fait de Binoche qu'avec cette marge, il nous transforme en Allemagne. C'est-à-dire qu'on va faire du chômage économique et partiel, non pas de la destruction d'emplois. Il se présente grâce à ça comme le sauveur de l'emploi. Avec cette toute petite marge qui en effet est ridicule. Mais il en fait une posture. Une posture politique.
Mais les faits démentiront ça. Les faits le démentiront, mais après personne ne suit ça au niveau des médias, etc. Parce que, je vous dis, il y a les affirmations, hein, genre la souplesse, l'assouplissement du code du travail, la souplesse dans la gestion d'entreprise va permettre. L'amoindrissement des contraintes juridiques va permettre de créer de l'emploi. Mais le problème, c'est que ça ne se vérifie jamais. C'est comme les exonérations de cotisations sociales ou l'abaissement des cotisations sociales, c'est fait aussi au niveau de l'emploi pour la création d'emplois, et ça ne crée pas d'emplois, c'est pas vrai. Donc il y a des études et des rapports sur ce sujet, mais néanmoins, vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, vous lisez les grands médias, personne, sauf par-ci par-là trois lignes, quand il y a un rapport qui sort sur le sujet, personne dit réellement ce qui se passe et ne fait de droit de suite, parce que ça serait intéressant qu'il y ait un droit de suite au bout de 6 mois, au bout d'un an, combien d'emplois créés suite à cette loi.
Alors justement, je crois qu'il y a eu ça d'ajouter aussi dans le texte, hein, c'est qu'ils ont décidé de. C'est le dernier article.
Oui, le dernier article.
Ils ont décidé de faire un bilan.
Ouais. Ouais. Mais beaucoup de lois prévoient des bilans.
Toutes les lois le prévoient.
Oui. Quasiment toutes les lois prévoient des bilans. Et moi, je ne vois jamais de bilan, en fait. Alors, il peut y avoir des. C'est surtout la Cour des comptes, en fait, qui fait des bilans, par exemple, sur les cotisations sociales, sur l'abaissement des cotisations. Parce que ça revient très cher. Ça revient excessivement cher à la sécurité sociale, à l'État, à tout. Et donc, c'est la Cour des comptes, en général, qui produit des bilans un peu sérieux sur le sujet. Mais en termes parlementaires, il y a peu de rapports sénateurs ou parlementaires sur le sujet.
D'autres questions ? D'autres bonnes ? Et moi, j'ai l'impression, de toute façon, l'odeur du travail à tout le monde et enfin, le plus possible, en tout cas, et payer les gens à leur juste valeur, c'est aussi tout un changement de société, et en particulier, ben, je pense à tous les emplois que l'on pourrait créer avec, en ayant une politique d'économie d'énergie et de redistribution. C'est vraiment un changement fondamental dans la façon de travailler et surtout produire quoi pour qui. Effectivement, ça c'est tout un travail, mais je pense qu'on tournera en rond avec des lois comme ça qui n'en aboutiront pas. Elles aggraveront. Est-ce que ça sera elles qui aggraveront plus? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne va sûrement pas s'arranger comme ça. Et tant qu'on ne se posera pas la question qu'est-ce qu'on produit et qu'on peut faire, et avec qui, et où, ça ne changera rien. C'est gentil ce que tu dis, Nathalie, bon, c'est facile à écrire, mais comment on fait? Bon, je dis aussi, comment on fait? Je pense que là, on est vraiment à un tournant vraiment important dans la façon de vivre. Enfin, ceci dit, il y a des années, enfin, je ne sais pas, la semaine dernière, il y avait le festival des films écologiques, par exemple sur la culture, des alternatives. Il y a les industriels, il y a les chimistes, Monsanto et compagnie.
Par rapport à ce qu'il vient de dire, Noël, en question du système, il y a quand même un travail qui se fait actuellement sur les coopératives et l'autogestion. Donc, peut-être à élargir un peu plus cette question qui est un peu compliquée à aborder peut-être maintenant pour savoir comment on peut en arriver là, quoi. Qui sont les patrons, je ne sais pas.
Non, oui, pourquoi pas, alors là. Mais c'est vrai que de plus en plus, la solution des coopératives face au licenciement, notamment, et donc de la reprise des entreprises,
des actionnaires,
qui ferment, par les salariés sous forme de coopératives, de plus en plus posée, hein, que ce soit Fralib, que ce soit Goodyear, où c'est posé, et puis bon. Il y a des imprimeries qui ont été reprises dans la région parisienne, donc, comme je vous rappelle, il y en a une dans 91 hein, ou 77, je ne sais plus, qui a été reprise sous forme de coopérative. Donc ça, c'est vrai que le mouvement syndical qui était pas trop depuis Litre, hein, et 74 très axé sur cette question, redevient plus axé là-dessus. Alors après, bon, j'ai lu une étude de l'administration du travail Île-de-France sur la question des coopératives. Le problème, c'est les entreprises fortement capitalistiques qui font beaucoup de capitaux. Et ça, c'est compliqué quand même d'apporter beaucoup de capitaux par des salariés
qui ramènent leurs indemnités de licenciement, et puis toute la question des prêts bancaires. Hein, par ailleurs, les prêts bancaires se font beaucoup moins auprès des coopératives. Bon, déjà, les entreprises ont parfois du mal à emprunter, mais alors auprès des coopératives, là, ça devient très compliqué. Hein. Donc, les entreprises très capitalistiques, Jean Boudieu, très capitalistique, ou Peugeot, qui est alors là encore plus capitalistique, là, ça devient très compliqué d'avoir comme alternative la solution de la coopérative dans le système actuel, en tout cas. Donc, voilà. Sinon, quelles autres pistes? Bon, il y a la piste, ça, des besoins sociaux ou écologiques à satisfaire, ça, il n'y a pas de problème, il y en a. D'accord? Les besoins écologiques, ça, effectivement, tout ce qui est l'isolation du logement, etc., ça peut faire beaucoup de travail, hein, normalement, dans le secteur du bâtiment. La question de la dépendance, par exemple, pour les personnes âgées, il y a une augmentation de la durée de la vie qui fait que, normalement, il devrait y avoir des créations d'emplois massives dans ce secteur-là, hein, par rapport aux personnes dépendantes. Donc là-dessus, on voit bien les secteurs potentiellement créateurs d'emplois. Mais après, il faut payer.
Qui paye, voilà. Qui paye.
Voilà. Qui paye. Et c'est là que, soudainement, la cinquième branche de la sécurité sociale sur la dépendance, par exemple, eh ben, on ne la voit toujours pas arriver. Parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des cotisations sociales qui financent ça. On voit un système de financement, mais les employeurs ne veulent pas... mettre plus d'argent, et puis il y a la lutte contre le déficit qui fait que l'État ne met pas plus d'argent. Alors sur l'interdiction des licenciements boursiers, il y a une proposition de loi qui a été travaillée sur cette question avec une niche parlementaire, c'est-à-dire c'est pas le gouvernement qui propose, hein. La niche parlementaire c'est pour des groupes qui veulent faire des propositions de loi, donc il y a une proposition de loi qui doit être déposée par le Front de Gauche le 16 mai, mais qui sera très certainement pas adopté, mais néanmoins, qui a permis un travail de dire, voilà, il y a possibilité définir autrement la réalité du motif économique pour amener à l'investissement, parce que par exemple, à l'heure actuelle, les entreprises, même si elles sont en difficulté, elles disent, on veut sauvegarder notre compétitivité par rapport à la concurrence internationale ou à la concurrence locale. Alors, sauvegarder la compétitivité, on peut faire beaucoup de fric. Mais on se dit que potentiellement, le concurrent, il pourra faire mieux, ce qui abaisserait nos parts de marché. Ça, c'est de la sauvegarde de compétitivité, et ça justifie des licenciements économiques à l'heure actuelle. Donc la proposition de loi, elle dit non, la sauvegarde de compétitivité ne permet pas des licenciements économiques. Les entreprises qui versent pendant 2 ans des augmentations de dividendes à leurs actionnaires, elles ne peuvent pas licencier pour motif économique. Ça, c'est des licenciements boursiers, par exemple. Donc, il y a cette proposition de loi, et puis il y a tout le travail et la proposition des organisations syndicales, notamment la CGT et Solidaire, sur la sécurisation professionnelle, qui là serait plutôt un projet, parce que ce qui est dit par les employeurs, oui, mais par exemple, quand on fabriquait des sabots, on a arrêté de fabriquer des sabots, et puis on est passé à une autre production. Les salariés, ils ne sont pas forcément adaptés à la nouvelle production, donc on est senti pour motif économique, puisque la boîte de fabrication de sabots a fermé, et puis on est passé à autre chose. Et la sécurité sociale professionnelle, c'est-à-dire effectivement, on ne peut pas rester ad vitam aeternam toute une vie professionnelle sur le même temps de travail, parce que les choses évoluent, les productions évoluent, etc. Mais, et les entreprises peuvent aussi fermer, et puis voilà. Mais de dire, un salarié, il a droit à une formation et un revenu entre 2 emplois, et une formation et un revenu lui permettant, un, de retrouver un emploi et, évidemment, de vivre pendant... de dire que ça doit être pris en charge par les employeurs sous forme mutualisée, par une cotisation qui mutualiserait le risque entre les employeurs et qui permettrait donc de verser des indemnités, des allocations aux salariés pendant la période de non-activité et de financer des formations. Voilà. Donc il y a des pistes de réflexion, hein. Il y a la réduction du temps de travail, il y a pas mal de pistes de réflexion. Le problème, c'est à un moment donné de se dire, bah oui, parce qu'on a l'impression que c'est un peu de la fatalité quand même, le licenciement. Et que les salariés, il faut qu'ils s'emparent majoritairement de ces propositions et qu'ils les fassent vivre à un moment donné, que les batailles se mènent autour de 5 ans. Mais ça reste un petit peu confiné, ou au monde syndical, ou. Mais il y a des pistes, hein, des réflexions, et ça avance sur ces pistes-là.
L'objectif d'Attac par ces réunions-là, voilà, c'est aussi de vous donner des informations, de vous donner des arguments, de vous donner l'espoir aussi, quelque part, de dire, voilà, on n'est pas dans cette morosité, et apprenons ensemble, décortiquons ensemble les sauces auxquelles on se fait manger et essayons de trouver autre chose et aussi ce que j'apprends là, je peux le dire à mon voisin, je peux le dire à mon collègue, je peux, voilà, on essaie, on n'a malheureusement pas de solution toute faite, ni malheureusement Yvonne, la baguette magique, pour que demain, à défaut de grand soir, on fasse que tout le monde ait un job.
C'est un scandale, les lunettes actuellement.
Oui.
Il faudrait y avoir une création de lunettes pour mille lunettes à prix rentable.
Mais il y en a, on va sur Internet.
Oui, ça commence.
Alors, ça fait déjà 4-5 ans sur Internet.
Bon,
hein.
Mais il y a plein de choses. Et justement, c'est bien aller à l'encontre de ces produits boursiers parce que nous, ça ne fonctionnera pas que c'est en bourse.
C'est sûr. Mais tu as des lunetteries mutualistes qui existent.
C'est 30% alors que d'après que je dis, ça coûte 2 €.
Il y a un petit coût,
Mais bon, il y a 600.
Ne partez pas, on va boire un petit coup. On va boire un petit coup si vous voulez. Salut Jean. On peut finir de discuter autour d'un verre.
Merci.